m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, en effet vous êtes sur Radio Courtoisie, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat animée chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Au programme de cette émission, comme chaque mercredi, deux invités et deux livres qui n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre, c'est ça qui est sympa. Nous recevons tout d'abord Emma Becker, romancière, auteur de Monsieur, ça y est j'ai oublié le premier, bon, La Maison, le Ma Jolie. Elle est ce soir-là, non pas pour un roman, mais pour une préface d'un livre qu'elle a poussé à éditer ou rééditer, en tout cas qu'elle a exhumé, un livre de Francis Jamm, Ma fille Bernadette, aux éditions du Rocher. À 18h30, nous recevrons Pierre Valentin, essayiste, auteur de Comprendre la Révolution Woke, donc qui essayait de comprendre la Révolution Woke, qui était son premier essai, et qui revient aujourd'hui, toujours chez Gallimard, avec son donc, deuxième essai, Malaise dans la Génération Z, un essai brillant, passionnant et déjà essentiel, et dans lequel il fait le diagnostic de sa génération. Je vous rappelle, chers auditeurs, que le magazine de l'Incorrect, le nouveau, celui de l'été, donc juillet et août, sort demain chez votre marchand de journaux, et vous pouvez le commander dès ce soir sur le site de l'Incorrect. À la une, Bullet Malin, Bronzé Réac, vous l'aurez compris, on vous a fondu un petit guide d'été fort sympathique avec plein de choses et plein d'idées assez marrantes et notamment la question que tout le monde se pose, comment continuer à boire sans grossir. Et puis voilà, plein de petits conseils comme ça, fort sympathiques, qu'écouter sur la plage, comment s'habiller sans passer pour un plouc. Si vous êtes de gauche, bah, comment pas réussir ses vacances. Si vous n'êtes pas de gauche, comment quelle destination choisir sans risquer de croiser un supporter anglais ou Kevin ou Matteo. Bref, pas mal de petites choses fort sympathiques. Et évidemment, chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions à nos invités par téléphone ou par courriel. Emma Becker, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je disais, vous êtes romancière, vous avez publié 6 romans, donc Monsieur à 23 ans, je crois que j'avais oublié, Alice en 2015, en 2019 La Maison, donc ce roman d'autofiction sur vos deux années passées dans une maison close à Berlin, Le Mal Joli en 2024, et donc là, vous êtes là pour Francis Jamm. Alors j'avoue que je ne connaissais pas Francis Jamm. Alors au début, j'avais même appelé Francis James pour vous dire, Francis Jamm, qui en fait est basco-béarnais puisqu'il est né à Asparin, magnifique petit village du Pays Basque. Et donc Francis Jamm est un poète, est un écrivain, et donc vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour éditer Francis Jamm, que peu d'émissions voulaient rééditer, et ce livre donc, qui était exhumé, publié aux éditions du Rocher, c'est Ma fille Bernadette. Et donc dans ce récit intime, l'écrivain célèbre la naissance de sa fille Bernadette et la transformation profonde qu'elle a provoquée dans sa vie. Et je vous propose, chère Emma, le mieux c'est de pour connaître un auteur, de le connaître sa plume, sa prose, et donc de lire un passage. Alors c'est moi qui l'ai choisi, parce que je l'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est le chapitre 3, et qui commence comme un flocon de neige inattendu.
Exactement, il s'appelle L'Ange Gardien.
Ah voilà.
Comme un flocon de neige inattendu, au milieu de l'été, elle est apparue sur le seuil, tenue dans sa robe de baptême. Et les pauvres petits du quartier avaient jonché le sol de buis et de baies de sureau. Et ils ont crié « Vive Mademoiselle Bernadette !» Et dans mon cœur, pris par tant de douce naïveté, vous seul, ô mon Dieu, avez su ce que je vous disais. Car vous êtes mon Dieu et Bernadette est ma fille. C'est vous qui l'avez envoyée du fond de votre ciel à deux voyageurs ici-bas qui vous louent de ce qu'elle repose dans son humble nid sous votre rayon de gloire. C'est un prodige adorable que votre main, qui soulève les flots, nous offre cette rose frêle.
Magnifique. J'aime beaucoup Francis Jamm, mais que j'ai découvert hier, évidemment. Et donc, vous avez écrit, en plus d'avoir poussé Le Rocher à éditer, ou rééditer, d'ailleurs, vous me direz si ça a déjà été édité, une magnifique préface, dont on parlera, évidemment, dans cette émission, et que j'invite tous les lecteurs, évidemment, à acheter le livre pour lire votre préface et découvrir Francis Jamm, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une tradition dans cette émission, celle de passer nos invités à la question. Alors, première question. Un livre à mettre dans les mains d'un athée convaincu pour le faire douter, et vous n'avez pas le droit de répondre la Bible, ou Francis Jammes ?
Non, mais je dirais le roman L'Exorciste, qui a donné lieu au film qu'on connaît, et le roman est proprement terrifiant. C'est le seul que j'ai dû fermer à 3h du matin parce que j'en avais peur, et ça vaut quelque chose.
Le poète que tout le monde fait semblant d'avoir lu ?
Je dirais Victor Hugo, parce que c'est facile d'avoir dit qu'on a lu les poèmes de Victor Hugo. En réalité, personne ne vous demande jamais d'en citer une seule ligne. Et je pense que c'est bien dommage, parce que c'est très difficile de... Enfin, il y a vraiment un avant et après la poésie de Victor Hugo, je trouve.
S'il ne devait rester qu'un seul vers.
Eh bien, écoutez, dans le contexte, je pense que ce serait un vers de Francis Jammes, hein, qui n'est pas dans ce livre-là, mais qui dit « Aimez, 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 abîmez-moi encore. Je crève de pitié, c'est plus fort que la vie. » Et pour moi, là-dedans, il y a tout.
Rimbaud ou Baudelaire ?
Baudelaire, bah, pour les fleurs du mal. Et parce que Rimbaud a un côté un peu mystique qui parfois m'ennuie, que j'ai du mal à comprendre, qui est un petit peu trop... peut-être un petit peu trop jeune à mon goût. Enfin, je le mets entre guillemets parce que...
La phrase d'un critique sur votre travail qui vous a le plus blessé ?
Ah bah écoutez, à peu près tout ce que l'incorrect a pu écrire sur moi.
Enfin... Bon, alors, celle qui vous a le plus touché ?
Celle que vous ne manquerez pas d'écrire sur mon prochain roman pour vous faire pardonner.
Voilà. Sommes incorruptibles. Le livre que vous glisserez dans la poche d'un inconnu dans le métro, 50 euros une la ligne. Pour dire du bien de vous.
Je dirais Le complexe de Portnoy de Philippe Roth, qui est l'un des bouquins les plus drôles que j'ai jamais lu de ma vie, vraiment, et qui est qui parle d'érotisme sans en parler, qui parle de famille, qui parle de folie. C'est un bouquin formidable.
Votre pire souvenir de signature ou de dédicace ?
C'était un petit salon l'année dernière organisé par une amie et qui s'est révélé être une espèce de catastrophe dans une salle des fêtes aveugle où j'ai vendu 3 livres, dont un La mère de Nicolas. Quoi.
C'est, voilà. Qui est une très bonne lectrice.
Oui, tout à fait.
Je précise
oui.
Nicolas étant Nicolas Desciendorf. La chose que la prostitution vous a apprise et que 10 ans de psychanalyse n'aurait pas suffi à vous apprendre.
La fellation.
J'ai jamais fait de cette analyse. Vous écrivez des autofictions. Si vous deviez choisir un écrivain pour écrire sur vous, ça serait qui ? Vous avez le droit de choisir un mort.
Ce sera un mort et je pense que ce sera Louis Calaferte. L'idée d'être écrite comme Louis Calaferte a pu écrire les femmes, notamment dans Septentrion, c'est la quête de ma vie et certainement la raison pour laquelle moi je suis devenue écrivain pour faire le boulot moi-même, vu que personne n'a l'air d'y tenir tant que ça. Quoi.
Un chef-d'œuvre qui vous tombe des mains.
Ulysse de James Joyce auquel j'ai voulu m'attaquer beaucoup de fois et à chaque fois ça a échoué au bout de 500 pages et je supporte pas qu'on me dise ouais mais il faut lire des profils, il faut lire des explications, si je rentre pas immédiatement dans un texte, pour moi c'est du snobisme, enfin c'est-à-dire c'est une pause ce livre.
Et enfin, dernière question, la question qu'on vous pose en interview qui vous donne envie de partir.
Quand est-ce que vous écrirez de la fiction, c'est-à-dire des vrais livres ?
C'était ma troisième question.
Je m'en vais.
Merci Emma Becker. Alors, avant de faire découvrir Francis Jammes, on va parler un peu de vous. J'aimerais bien de savoir, comme disent nos camarades trotskistes, d'où vous écrivez, Emma Becker. Comment est née votre passion pour l'écriture ?
Assez tôt, je sais pas exactement pourquoi, je sais que je lisais beaucoup et que j'étais assez fascinée par le fait qu'on pouvait déplacer les mots pour en faire des choses jolies qui évoquaient des images. Enfin, c'est très con comme mais certainement comme ça, j'ai commencé à écrire quand j'ai pu écrire.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire ? Est-ce que vous êtes retrouvé chez vous dans votre maison avec des livres et des grandes bibliothèques, vos parents vous mettaient des bouquins dans la main, ou alors c'est l'école qui vous a fait découvrir les grands classiques, les grands auteurs ?
Bah non, l'école malheureusement a tendance à, je pense, dégoûter des grands classiques qu'on relit après avec énormément de plaisir, parce qu'on les lit de son propre gré. Non, moi j'ai vraiment grandi, et je l'ai dit assez souvent, mais j'ai grandi vraiment dans la bibliothèque familiale, c'est-à-dire avec les BD porno de mon oncle, les livres de ma mère, à la fois des classiques et des contemporains sans queue ni tête, et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à penser, c'est-à-dire avec des livres et des images.
Est-ce que vous vous rappelez votre première claque littéraire ?
Ah bah oui, c'est un livre qui s'appelle Le Point d'orgue, d'un auteur américain qui s'appelle Nicholson Baker, qui est un espèce de thriller érotique, c'est très dur à définir comme livre. Ça se lit de façon, on reste complètement haletant, les scènes érotiques sont absolument merveilleuses, c'est plein d'un humour, et moi je trouve que c'est vraiment un livre féministe sans lettres, c'est-à-dire... C'est un homme qui, pour le coup, aime vraiment les femmes et les comprend. Et c'est pas si fréquent.
C'est-à-dire quoi, un homme qui aime vraiment les femmes?
Bah, c'est-à-dire qu'il les aime pour les bonnes raisons, pas pour l'usage qu'il peut en faire.
Alors, votre œuvre est traversée, et on l'entend, par une obsession constante, et c'est pas au sens péjoratif du terme que j'emploie ce mot, le désir, le corps, les femmes, le rapport aux hommes. Mais qu'est-ce qui vous travaille-t-on? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous cherchez à comprendre? Est-ce que vous cherchez des réponses? Ou vous cherchez simplement à exprimer? Ou c'est simplement ça qui vous inspire et qui vous donne envie d'écrire?
Non, mais déjà, le crépitement du désir est quelque chose que je trouve très émouvant. La nudité est quelque chose que je trouve émouvante. Ce qui nous rapproche les uns des autres, en dépit d'à quel point c'est compliqué d'être un homme et une femme et d'essayer de faire quelque chose ensemble, ça me passionne. Et je pense, d'autre part, que le boulot d'écrivain qui est finalement de poser des questions devant soi, sans même avoir la prétention d'y répondre, voilà, c'est ça ma tentative. C'est essayer de m'expliquer à quel point je ne m'explique pas tout ça. Pour moi, c'est toujours nouveau, le désir, c'est constamment renouvelé. C'est pas une obsession, c'est qu'on n'a jamais fini d'aller au fond.
Qu'est-ce qui vous fait asseoir une table, alors plus avec un stylo et une feuille, quoi que peut-être vous écrivez encore à la main, ou qui vous donne envie de taper sur un clavier, c'est quoi le moteur, c'est quoi le point de départ?
Ah, c'est une grande exaltation. C'est en tombant amoureux, c'est en vivant quelque chose qui vous bouleverse et que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Et là, on a envie de poser ça à plat et de tout étudier sous toutes les coutures. Déjà pour s'en remettre, et puis parce que l'amour, c'est aussi ça, cette constante obsession de vouloir surcomprendre quelque chose qu'on comprend déjà peut-être. Enfin, c'est du fétichisme, en fait.
Et c'est pour ça que vous faites dans l'autofiction, c'est parce que l'exaltation part de quelque chose de très personnel et que vous avez besoin de l'exprimer ou le comprendre ou le partager. Et donc, vous ne pouvez pas sortir complètement de vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un personnage complètement fictif, vous ne pouvez pas raconter une histoire qui se passe dans un autre temps, dans un autre pays. C'est parce que tout part de vous.
Je l'ai fait, mais j'ai l'impression que ça sonne faux. Alors, c'est vraiment mon avis, hein, mais je veux dire, j'adore les romans, j'adore les gens qui ont des idées plein la tête, qui inventent. Stephen King, Maupassant, c'est vraiment mes dieux, mais je ne m'en sens déjà pas capable, j'ai pas beaucoup d'imagination, et je trouve que la vie au quotidien vous dispense presque d'en avoir. Il y a des choses qui se passent sans qu'on les veuille, qui sont tellement intéressantes, tellement miraculeuses, c'est une telle cour de récréation que de se lever tous les matins en étant vivant, que je me dis, finalement, l'expérience humaine, en ça, c'est la plus grande des aventures. Et mon projet serait plus d'essayer de décrire une personne à une époque donnée dans un corps, et donc avec un genre de pensée particulier, pour essayer d'englober, c'est-à-dire avec tous mes collègues qui font de l'autofiction, l'expérience humaine de la façon la plus congrue et la plus exhaustive possible. Et c'est impossible, mais ça n'empêche pas d'essayer.
Est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'un éditeur a accepté un de vos textes, et la première fois qu'il est sorti, qu'il a été publié, que vous aviez l'objet dans votre main?
Ah bah oui.
Que vous a...
Ah bah je m'en souviens.
Que vous ressentiez.
Bah c'était comme d'avoir gagné au loto. Enfin je veux dire c'était. Il faisait très beau ce jour-là. Je ne sais pas s'il faisait beau, mais alors qu'est-ce qui faisait beau ce jour-là? C'était absolument merveilleux. Je n'y croyais pas. Enfin c'était incroyable de me dire mais tout ce que tu as toujours voulu en fait est en train de se réaliser. Quelle vie incroyable quand même j'ai eu depuis 23 ans, depuis j'ai eu une chance incroyable. Et d'être publié et d'avoir la chance qu'on lise mes livres et qu'on... Pour moi, c'est voilà, je peux mourir heureuse, mais bon, le plus tard possible, mais quand même, voilà.
Comme disait Thierry Roland, puis comme on a les périodes de Coupe du Monde de foot, c'est parfait, c'est la réplique.
Ah bah,
le plus tard possible, 98, Thierry Roland qui dit ça, on a vu, on peut mourir tranquille, mais le plus tard possible. Il est quand même mort après.
Grand auteur.
La plus belle punchline du football.
Je ferai ressortir au rocher.
Quel est votre rapport avec votre éditeur?
Mon éditrice, là en l'occurrence, Anna Pavlovitch, chez Albin Michel, on a une très bonne relation. Moi, j'aime beaucoup Anna qui me suit depuis la maison et qui, je trouve, a une lecture très fine de ce que j'écris et qui souvent m'aide à sortir d'impasses monumentales. Mais tout comme mon agent Olivier Rubinstein, qui était mon premier éditeur, m'a aussi beaucoup aidé. C'est-à-dire,
Ah oui, votre premier éditeur est devenu votre agent.
Exactement.
Et maintenant, vous bossez avec une éditrice.
Voilà. Et je trouve que le rôle de l'éditeur est absolument crucial, parce que c'est un boulot solitaire d'être écrivain, mais il ne faut pas que ce le soit trop non plus. C'est très compliqué au bout d'un moment d'être le seul maître à bord. Et là, c'est important d'avoir autour de soi des gens dont c'est le boulot et qui savent vous aiguiller.
Et c'est pas désagréable de se faire corriger, de se faire reprendre, de dire non, ça va pas, on recommence, ou c'était pas mal, mais en fait, on va repartir à zéro.
Bah si, c'est une école d'humilité, hein. C'est parfois, ça peut être absolument terrible. Mais quand on est sûr de ce qu'on a écrit, de son texte, il faut aussi savoir accepter le fait que très souvent, ces phrases auxquelles vous tenez depuis le début et qui ont passé toutes vos corrections, en fait, il faut qu'elles s'en aillent. Elle vous plaît à vous, mais elle apporte rien au texte. C'est un vrai exercice d'humilité.
Romaric Sangars.
Oui, chère Emma Becker, vous écrivez avec votre expérience, avec votre corps aussi, avec votre sexe aussi. On est dans une époque de relativisme sexuel. Or, il me semble que le rapport au monde est tout à fait déterminé de manière fondamentale avec le corps qu'on habite, avec la manière qu'on a d'habiter ce corps. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode d'indifférenciation, de confusion? Est-ce que c'est quelque chose de purement cérébral ou est-ce que en fait ça apporte des nouveaux aperçus possibles dans sa manière d'habiter son propre corps, même si on n'est pas complètement queer, un peu paumé, quoi, je veux dire. Et d'un autre côté, est-ce que à l'ère de l'IA justement, il va pas être de plus en plus essentiel finalement d'écrire avec son corps, puisque c'est l'avantage définitif qu'un écrivain a en chair et en os par rapport à une machine?
Ça fait plusieurs questions en une, mais en tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que l'un des films de ma vie que je recommande à tout le monde, c'est un film de John Cameron Mitchell qui s'appelle Hedwig and the Angry Inch. C'est une comédie musicale qui sort au début des années 2000 et qui suit le parcours de ce qu'on appellerait aujourd'hui une femme trans, partie de Berlin, il lui arrive tout un tas d'aventures. Et c'est un livre qui m'a parlé alors que je n'ai absolument rien, j'ai jamais ressenti de problème avec mon identité ou de décalage. Mais parce qu'en réalité, je pense qu'on est tous en train de chercher en nous notre place, notre façon d'exister. Je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose qui soit réservé à un malaise ou une sensation dysphorique. Mais je pense que ce qui se passe en ce moment est peut-être la traduction d'un malaise qui est là depuis très très longtemps. Enfin, moi, c'est mon parti pris parce que c'est mon objet d'étude. Je pense qu'il y a un tel malaise dans le couple hétéro, dans l'homme et la femme, qu'effectivement, on a tendance à chercher peut-être de nouvelles façons de s'en échapper. Mais je pense que tout ce qui se radicalise et qui finalement a pour vocation de créer tout un tas d'îlots, d'identités qui sont montés les unes contre les autres et qui font une espèce de course à la médaille de vertu, ça ne peut de toute façon que me, ça ne peut que me scandaliser parce que, et l'érotisme dans tout ça. C'est-à-dire, on n'a jamais autant parlé de sexualité, le cul est partout, on en vomirait, mais on en parle mal, on en parle à mauvais escient, on en garde ce qui est devenu, c'est-à-dire un objet de consommation dans l'érotisme. C'est-à-dire le porno, les images violentes, ce qui se consomme vite, une forme de livre, de new romance et de dark romance qui finalement remplit vite et bien l'âme. On ne sait plus bander, on ne sait plus que jouir. Et encore, on ne sent plus rien. Et je pense que tout ce qui se passe, ces espèces de petits agrégats d'identité, sont la traduction de cette espèce de ras-le-bol très fin de siècle.
Continuons sur l'identité. La femme est un mystère pour l'homme, ce qui a permis à l'homme de conquérir des planètes, en tout cas des contrées, d'écrire des choses magnifiques, et puis aussi de faire des choses complètement absurdes et complètement débiles, et de paraître parfois un peu benêt, et d'où la grande incompréhension qui se traduit aujourd'hui par des choses en effet un peu bizarres, avec ces îlots, ces déconstructions, ces reconstructions. Mais la femme aussi est un mystère pour la femme, et ce dont j'avais retenu dans le Majoli que vous avez publié en 2024, il était question aussi de cette conciliation possible ou impossible entre la femme qui veut et la mère qui donne. Est-ce que vous avez résolu cette question depuis?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, ça me prend tellement de temps de me poser cette question qu'après, j'ai plus le temps de m'occuper des enfants et de jongler avec tout ce que j'ai à faire. Donc, pour le moment, jusqu'au prochain livre où j'ai un peu le temps de respirer, je considère que pour tout le monde, c'est un peu pareil. On est en permanence déchiré dans cette existence. On est déchiré. En fait, on soufflera quand on sera mort. C'est l'écho que j'ai de tous les vieux autour de moi, de tous les parents. Donc, pour le moment, je baisse la tête, je serre les fesses et j'attends un moment où j'aurai le temps d'y penser.
Passez-moi votre livre. On va le montrer à la caméra. Donc, Francis Jam, ma fille Bernadette. On va en parler un peu, parce que vous avez écrit une magnifique préface. Et puis moi, j'invite tous les auditeurs à le découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je sais que beaucoup sont beaucoup moins incultes que moi et le connaissaient déjà. Alors, racontez-nous votre première rencontre avec Francis Jam.
Alors, ma première rencontre avec Francis Jammes, j'en parle d'ailleurs dans la préface, c'est je suis en train de lire un espèce de précis de poésie française et je tombe sur ce poème qui s'appelle « La prière pour aller au paradis avec les ânes ». Et je suis immédiatement happée.
Vous avez quel âge ?
J'ai 13 ans, quelque chose comme ça. Mais j'aime déjà beaucoup la poésie. Pour moi, c'est comme de la musique, ça se lit pareil. Et donc, je suis happée par le premier vers de ce poème qui sont « Lorsqu'il faudra aller vers vous, ô mon Dieu, faites que ce soit par un jour où la campagne en fête poudroiera ». C'est tout simple. Mais ça a fait une espèce d'explosion de... Mais je sais pas, ça a ouvert quelque chose en moi. Et c'est vrai que pendant des années, je n'ai connu que cette poésie. C'est très récemment que je me suis intéressée à tout ce qu'il avait pu faire d'autre. Un catalogue de poésie ultra riche, des pièces de théâtre. Et ce petit livre qu'effectivement je fais reparaître, qui existait au Mercure de France jusqu'en 1900, je ne sais pas trop quand, qui n'est pas de la poésie à proprement parler. C'est-à-dire que c'est en prose, hein. Ça c'est important de le dire, parce qu'on a la flemme de lire de la poésie aussi parce qu'on pense que ça va être en vers, en alexandrin, nanana. Non, là c'est de la prose poétique, et je découvre ça, ce petit livre tout perdu au milieu des poésies. Et je suis émerveillée, alors déjà par le style de Francis Jammes, qui est vraiment d'une sensualité, d'une sobriété, il émet de la lumière, hein, Francis Jammes. Donc je suis happée par ça, et puis surtout par cette idée d'un homme, c'est-à-dire d'un père, écrivant sur sa petite-fille, ce qui est quand même pas si courant. Encore une fois, on a eu Victor Hugo, avec ses très belles poésies sur ses petits-enfants, et puis sur ses filles. Mais l'idée d'un jeune père qui se plonge dans les premiers temps d'un bébé, les couches, les nuits sans sommeil, les inconforts, les insécurités, les terribles angoisses qui les traversent, ça, j'ai pas mémoire d'avoir lu ça, en tout cas certainement pas à cette époque, à une époque où les petites-filles, bon... ça faisait un peu moins plaisir quand même qu'un petit garçon. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé vraiment dans cette, comment dire, bibliographie très riche, une espèce de faille, hein, de tendresse et de vulnérabilité chez cet homme, qui est plutôt, en plus, voilà, il a une certaine... il occupe une certaine place quand même, Francis Jammes. Francis Jammes, il est un peu rugueux, c'est pas du tout un mondain. Lui, il est très terre à terre. Et ce livre-là est finalement au confluent de sa poésie très champêtre, hein, très rustique, et sa conversion au catholicisme en 1905. Donc c'est son pote Paul Claudel qui le mène vers un catholicisme dont on l'avait nourri à petite dose, mais que là vraiment il redécouvre. Et donc effectivement, quand j'ai eu cette idée de ressortir ma fille Bernadette, plusieurs éditeurs m'ont dit « Ah mais c'est trop religieux, là il va falloir expliquer ». Ce qui était pour moi impossible à entendre, parce qu'on ne vous demande pas de recontextualiser, je ne sais pas moi, le Cantique des Cantiques ou Tristan et Iseut, enfin je veux dire, effectivement, il y a dans ce texte une très forte somme de religion, d'espoir en Dieu, mais ça se lit aussi en tant qu'athée, autant en tant que païen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de croire en Dieu ou d'être catholique pour lire Francis Jammes, parce que quand il convoque Dieu, Francis Jammes, il ne fait que convoquer une puissance supérieure qui protégerait notre enfant tellement vulnérable, tellement fragile. Et c'est le cas de n'importe quel parent. Quelqu'un qui vient d'avoir un enfant a peur de tout, est prêt à croire en tout ce qui peut protéger son enfant, sa cellule familiale et cet amour terrible qui prend le pas sur tout. C'est une déclaration d'amour absolument superbe. Et si on a envie d'y aimer Dieu, on peut aussi.
D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est vrai que quand on découvre ce texte, on se dit, voilà un homme qui va s'enthousiasmer, enfin s'ébahir de cette manière du fait d'être père. Mm-hmm. Il a appelé sa fille Bernadette. En fait, là, on coche tout pour vraiment être dans le grotesque et le nier le plus, et tout ça avec de la poésie, et une poésie assez transparente, joyeuse, enfin, il y a tous les éléments pour faire quelque chose d'absolument nié et rébarbatif.
D'un peu pompier, oui, c'est vrai.
Et le miracle a lieu. C'est d'une pureté, c'est absolument extraordinaire. Vous en parlez très très bien dans votre préface, vous arrivez très bien à mettre en valeur cette pureté au sens cristalline presque de sa poésie, qui est évidente. Et c'est, je trouve, vraiment comment dire, éblouissant, assez virtuose de parvenir à faire ce genre de texte, même aujourd'hui. Évidemment, là, en plus, on se dit, c'est le début du XXe siècle, etc., converti par Claudel. Bon, ça peut être encore plus kitsch, ressembler à la coupole du Sacré-Cœur. Mais même aujourd'hui, quelque part, un écrivain qui s'enthousiasmerait en vers libres de la naissance de sa fille aurait, à 90%, ferait quelque chose de ridicule. Et au contraire, c'est tout à fait somptueux Et je comprends donc, bref, les prévenances des éditeurs sur un texte pareil qui, sur le papier, a vraiment tout pour réfréner l'intérêt de tout le monde et vraiment à tort.
Oui, oui, et puis, enfin, encore une fois, moi, même si j'ai été élevée comme une catholique, mais alors vraiment, vraiment, mais juste du bout des doigts, je retrouve dans sa manière de catholicisme quelque chose qu'on m'a pourtant appris quand j'étais petite, c'est-à-dire que Dieu, quelque part, était partout. Dieu est dans la nature, Dieu est tout entier dans sa création. Donc Dieu est dans le bébé qui sourit, Dieu est dans le simple fait que le bébé arrête de tousser un matin. C'est une célébration pratiquement, c'est presque du panthéisme, c'est presque un animisme chrétien qui me semble apporter d'enfant. Et je pense que si on m'en avait parlé comme ça quand j'étais petite de Dieu, si on en avait un peu plus, ben, ça aurait pu marcher. Parce qu'effectivement, là, c'est pas tant croire en une puissance supérieure qu'on n'arrive pas à toucher ni à voir. C'est l'idée qu'effectivement, Dieu s'est retiré de sa création et y a laissé toute sa lumière et toutes ses paillettes. Mais encore une fois, Cantique des Cantiques, je veux dire, c'est un magnifique texte érotique ou alors c'est un texte très religieux. Mais cette exaltation de l'amour de l'enfant et de l'amour de Dieu, finalement, est très semblable. Il y avait un autre petit passage que j'aurais bien aimé vous lire parce que justement, il me semble que c'est là qu'on comprend en fait ce mix entre sa sensualité passée de type qui se fait toujours briser le cœur, qui a toujours des amours impossibles et qui va se reposer dans les étangs et le nouveau catholique qui brusquement voit Dieu partout. Et ce passage s'appelle « Premier printemps ». Tu es entré depuis 5 jours dans ton premier printemps. Quand j'étais adolescent, j'aimais de toute mon âme cette époque où mes rêveries fleurissaient avec la rose rustique, l'aubépine et l'anémone Sylvie. Je vibrais comme une ruche et me nourrissais d'avenir. Il y avait un banc dans un bosquet et les jeunes filles que j'avais suivies tiraient derrière elles les lourdes portes qui se refermaient sur leurs yeux flattés, interrogateurs et liquides. Les pluies fines dans la poussière sentaient bon, ô mon cœur, qui fut longuement balancé, tel que dans la haie le rameau que l'on touche en courant. Que faisais-tu de ces trésors vivants cachés en toi comme des dormeuses dans leur demeure? Mon cœur répond, ce que j'ai fait de ces impressions de printemps, je les ai mûries en secret pour qu'elles prissent une forme. Des teintes de la rose rustique, de l'aubépine et de l'anémone Sylvie, du chant des oiseaux des bois, de la naissance mystérieuse de l'amour, des légères larmes de l'averse sur la terre et du balancement des branches, j'ai pétri Bernadette.
C'est très joli. Mais j'ai noté quelque chose, c'est vrai que c'est très juste. On ne le remarque pas en le lisant, on le remarque après en vous écoutant, en faisant l'exégèse de ce texte magnifique. C'est en effet, c'est rare de voir un père parler de ce qu'il fait quand il change les couches, de ses inquiétudes de la nuit. En fait, la charge mentale.
Il y a beaucoup de femmes
qui
gèrent
la charge mentale. Oui. Lui, il sublime la charge mentale. Je pense qu'il n'y a que les hommes qui pourraient faire ça. Je peux vous dire que la charge mentale, en lisant Francis Jammes, mesdemoiselles, mesdames, surtout mesdames, elle existait déjà au tout début du siècle dernier. Et il y en a qui, au lieu de se plaindre, ont écrit des poèmes.
Exactement. Franchement, il y a toujours du temps quand on veut, on n'a qu'à moins dormir. Non, mais c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que je me suis dit c'est un texte intéressant à ressortir à une époque où effectivement on trouve que finalement il n'y a jamais que les femmes qui s'intéressent aux tout petits, qui s'intéressent à l'épreuve que ça représente, à l'insécurité, aux grandes joies, tout ça. Non, il y a quand même Francis Jammes qui en 1908, quand même, dans sa petite cabane, voit sa vie complètement révolutionnée par une toute petite fille qui est la chair de sa chair. Et moi, j'adore les moments de littérature où on voit les hommes un peu nus comme ça sur des sujets que généralement, c'est pas qu'on se moque d'eux quand ils le font, c'est qu'on leur retire des mains. C'est-à-dire, il est très compliqué pour les hommes aujourd'hui d'exprimer des vulnérabilités, des faiblesses. Ils se font reprendre non seulement par leur propre camp, qui est assez impitoyable, mais également par tout un tas de femmes qui considèrent que si les hommes souffrent, alors c'est que les femmes souffrent 10 fois plus. Je considère que ce livre redonne aussi le droit aux hommes de s'émerveiller sur le tout petit qui, jusqu'à présent, c'est vrai, était le règne des mamans.
Et je vous promets que Francis Jammes n'est pas un homme déconstruit. Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Emma Becker qui publie donc la préface de Ma fille Bernadette de Francis Jammes. Sans Emma Becker, ce livre n'aurait jamais été republié, ce qui nous permet de replonger dans la vie de Francis Jammes et de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, Francis Jammes. Mais vous savez, chers auditeurs, que si vous voulez découvrir des auteurs comme ça et parler de la charge mentale en poésie et des hommes déconstruits qui écrivent des poèmes avant que Sandrine Rousseau n'ait ouvert le bec, il faut soutenir Radio Courtoisie et on a besoin pour ça de vos dons. Alors écoutez ce petit message et on se retrouve tout de suite après.